Voilà, je vous invite à prendre quelques instants pour louer le saint au roi mon Dieu, à la page 18.
Je t'exalte au roi mon Dieu.
Page 24, louange à toi, notre Dieu, béni soit ton Père, le deuxième au Fils, et le troisième à...
Nous voulons te louer, nous voulons te louer.
quelques petites pistes sur la paternité de Dieu. Forcément, ça reste un coatif, c'est pas une conférence scientifique, sinon je vous la lirais et ce serait saoulant. C'est vraiment pour entrer dans un lien vivant avec cette paternité de Dieu, qui est à la fois très simple à vivre, et puis très mystérieuse et pas évidente à dire avec des mots, parce que comme elle se vit au niveau du cœur, c'est notre cœur qui doit ouvrir. Le cœur de la révélation du Père par le Fils et de la révélation par l'envoi du Père au milieu des hommes, c'est que Jésus est celui qui nous révèle le Père. Et je vous ai dit, Jésus nous révèle que dans son action avec le Père, ils sont un. Ils sont un du côté de l'amour, ils sont un du côté du témoignage, ils sont un du côté de la connaissance. Et puis je finissais tout à l'heure en vous disant, ils sont un du côté de la volonté. Jésus nous fait connaître la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? Voyez, on se dit quelquefois, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas quelque chose à inventer. Dieu ne veut pas ça ou ça. Il le veut aussi, mais il veut surtout que nous allions vers lui. Si on avait le temps, je vous réexpliquerais tout ce que saint Thomas d'Aquin pique à saint Jean Damascène sur la volonté antécédente et la volonté subséquente de Dieu. Et Dieu a une volonté antécédente sur vous et Dieu a une volonté subséquente. La volonté antécédente de Dieu, c'est qu'il veut que vous soyez saints, et la volonté subséquente de Dieu, c'est que pour réaliser votre sainteté, il va passer par vos choix. Malheureusement pour vous, Dieu n'a pas voulu de toute éternité dans sa sagesse éternelle que vous vous rencontriez et que vous vous épousiez. Il ne l'avait pas décidé. Il a laissé ça à votre libre choix. Il a décidé que je rentre dans la communauté Saint-Jean sans mon consentement, en disant « toi, tu iras là ». On fait un peu un organigramme en disant « il faut que chaque congrégation sur la terre ait un peu des vocations ». Donc dans le pool des vocations que je suscite, je les répartis déjà comme ça. Il y a des congrégations qui meurent. Il y en a d'autres qui naissent, il y en a d'autres qui renaissent, et c'est lié à l'histoire humaine de ces congrégations. Je vous laisse la liberté d'épouser telle personne, de choisir cela pour vous sanctifier, ce cadeau-là pour vous faire grandir. C'est ça la volonté du Père, et la volonté de Dieu Père sur nous, c'est que nous soyons ses enfants, donc que nous l'accueillons comme Père. Pas ça, tout le reste n'a aucun sens. Dans cette lumière-là, tous les autres choix que nous pouvons faire ont leur sens. Justement, pour vous redire en quelques phrases ce que je vous disais ce matin trop rapidement, cette manière dont Jésus présente un Dieu Père ne rentre pas dans les cases d'un peuple juif pour lequel Dieu est unique. Et l'exemple le plus frappant, c'est le chapitre 6 de l'évangile de Jean sur l'enseignement sur le pain de vie. C'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, Jean 6, 32, le vrai pain, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. C'est-à-dire, je suis le pain de vie. Mange ma chair et bois mon sang à la vie éternelle. Que les théologiens se posent la question en disant, est-ce que Jésus nous demande d'être cannibales? Et manger sa chair et boire son sang, c'est hyper concret. Cannibale, parce que c'est sous les espèces du corps et du sang qui nous sont rendues visibles par le pain et le vin, mais la réalité, c'est que nous communions au corps du Christ physiquement. Et donc, il y a quelque chose d'hyper concret. Et pour le peuple juif qui a un Dieu qui conduit son peuple et qui intervient ponctuellement, mais qui n'est pas visible au milieu de son peuple, parler d'un père qui a un fils, donc d'un double Dieu, et en plus d'un Dieu qui est rendu concret par des enseignements comme celui, par exemple, du pain de vie, c'est extrêmement choquant. Donc c'est légitime, j'allais dire, quand on lit l'évangile de Jean, qu'on voit l'énervement des Juifs dans ce que Jésus enseigne. Notre père, c'est Abraham, 8:39. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Et Jésus leur répond, vous voyez, ils ont une conception de la paternité de Dieu, mais une conception lointaine. Et Jésus répond, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez,
car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé.
Oui, cette consomme par rapport à Dieu, c'est plus facile de concevoir un Dieu lointain. Et un Dieu qui devient proche de cette manière-là, c'est choquant, et ça reste choquant. Un musulman n'arrive pas à réconcilier dans notre foi chrétienne cette manière dont Dieu est à la fois transcendant et un parmi nous. C'est irréductible.
Si ça n'est pas révélé que nous ne l'accueillons pas dans la foi, c'est difficile de le comprendre. Alors comme transition, j'avais encore d'autres petites choses à vous dire, mais comme belle transition entre le Père et le Fils, eh bien on peut regarder les lieux de la prière du Fils au Père. C'était mon troisième petit point de la paternité de Dieu, mais que j'utilise comme transition pour passer du Père au Fils. On a trois petits lieux, j'en ai trouvé trois, j'ai pas relu tout plus en détail, il y en a peut-être encore d'autres, mais j'ai trouvé trois petits lieux, enfin deux petits et un grand lieu de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean qui sont extrêmement lumineuses pour nous faire comprendre ce qu'est la prière de Jésus, ce que notre prière peut devenir, comment nous prions dans le cœur et dans la personne de Jésus. Le premier lieu, c'est Jean 11, 41. C'est la résurrection, la fin du passage sur la résurrection de Lazare. On enleva la pierre, Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je sais. » Révélation d'un Dieu qui écoute. Et pas simplement qui écoute avec son oreille, mais quand Dieu écoute son Fils éternel fait chair, et quand Dieu écoute notre prière, eh bien Dieu s'engage. Et se toucher, c'était une chose extrêmement difficile à partir du Xe siècle dans la théologie chrétienne. C'était pas encore. Comment penser que Dieu est au-dessus de tout, l'immutabilité de Dieu, Dieu ne change pas, et pourtant Dieu se laisse toucher par ma prière. Et que pourtant Dieu se laisse toucher par la prière. Quand vous étiez jeunes, mesdames, peut-être messieurs aussi, vous disiez à vos enfants, ce que tu fais là, ça ne fait pas plaisir à Jésus. Est-ce que c'est de rhétorique ou est-ce que ça dit quelque chose de vrai? Votre enfant fait une crise de manger son dîner, eh bien, tu ne fais pas plaisir à Jésus. Est-ce que c'est vrai? Bon, parce que je vois un peu tout, je vois les noms de gros, je vois les... Eh bien, ça dépend comment on le regarde. Il reste Dieu, mais parce qu'il nous aime et qu'il s'intéresse à votre éducation paternelle et maternelle jusqu'à la cuillère de soupe qui ne veut pas passer, eh bien, oui, il se laisse toucher par cette mère ou ce père qui essaye de montrer son amour en son enfant en lui enfournant la cuillère dans le bec. Alors, est-ce que ça fait plaisir à Jésus ou pas? J'en sais rien, je ne suis pas à la place de Jésus, mais... Ce Dieu qui est le Dieu au-dessus de tout, qui est la source de tout, qui est le seul nécessaire, eh bien, il choisit de se laisser toucher par les petites choses de notre vie. Sinon, la prière ne servirait à rien. Allez. Si Dieu ne se laissait pas toucher par notre prière, ça servirait à rien de prier, puisque de toute façon, il écoute notre prière, ça veut dire quoi? Il dit, vas-y, continue à prier, je t'écoute. Et vous êtes en train de faire la cuisine le soir et les enfants sont en train de hurler, maman ou papa, je veux ton attention, et bien vous dites, je t'écoute, mais vous comptez à faire. Donc Dieu continue à gérer ses affaires et vous dit, je t'écoute, mon petit, vas-y, continue à me dire ce qui est important. Parce que c'est ça l'écoute de Dieu. Aucune demande que nous faisons à Dieu qui ne laisse sans réponse. Votre Père, tout ce que vous voulez, et il vous l'accordera. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous faisons l'expérience, on devrait le rajouter dans le questionnaire, dans la deuxième partie, mais est-ce que j'ai fait l'expérience d'avoir été exaucé de manière miraculeuse dans une de mes demandes? Ça me ferait du bien de demander un truc, le truc le plus délirant que je n'osais jamais demander, et que Dieu m'ait pris au mot. T'as demandé ça? Eh ben, tu vas l'avoir. Tu croyais pas que j'étais tout puissant? Eh ben, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors après, on se retrouve en petite tenue. Il est aussi puissant que ça, il est vraiment tout puissant. Ben, il faut oser lui prier comme ça, lui demander. Je sais que tu m'écoutes toujours. Dieu est capable de ressusciter les morts. Deuxième petit lieu, Jean 12, 27. Au début de sa passion, quand Jésus entre dans sa passion, dans l'évangile de Jean, il dit « Maintenant mon âme est troublée, que dire, Père, sauve-moi de cette heure ?» Mais c'est pour ça que je suis venu à cette heure, Père, glorifie ton nom.
Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié et de nouveau.
Cela, il est hyper étonnant quand on lit un peu avec un regard profond, parce qu'il y a les deux extrêmes du cœur humain qui sont engagés en même temps. L'âme humaine de Jésus pressent la passion et refuse la souffrance. Père, sauve-moi de cette heure, délivre-moi de cette heure. Et ensuite, Père, glorifie ton nom. La prière chrétienne qui se cale, qui s'enracine dans la prière du Christ, la prière où nous pouvons, avec toutes les intentions de notre cœur les plus douloureuses, découvrir que Dieu veut nous donner sa gloire dans ces moments-là. Il n'y a pas de situation humaine si désespérée que Dieu ne puisse venir s'y nicher. Alors vous voyez, quand on est un christianisme bien pensant, comme on est tous un peu, on n'est pas dans un pays en guerre, pas encore, on a des attentats terroristes, oui, ponctuels, si on ne se trouve pas dans la rame de RS ce jour-là, ça ne nous touche pas directement. Notre foi est à des lieux de culte, on n'est pas persécuté visiblement, alors oui, d'accord, il y a plein de choses indirectes, peut-être politiques, qui ne vont pas dans le sens de l'évangile, mais on peut quand même vivre notre foi. On a des paroisses qui fonctionnent, on a une église qui a déjà 2000 ans, donc tout ça c'est bien installé. Est-ce que arrive à l'intérieur de ça à choisir une prière qui soit contemplative, qui demande à Dieu de changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la manière dont Dieu peut s'engager dans notre prière? Sauve-moi de cette heure, dit Jésus, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie. Troisième lieu, évidemment, je ne vais pas le développer trop parce que ça sera plutôt l'objet de votre lection divine tout à l'heure, mais c'est cette grande tête qui fait écho, c'est aussi une des questions que Sœur Jean-Thomas vous propose et qui est belle, de voir comment cette prière du Fils à son Père complète, éclaire autrement cette prière du Notre Père qu'on connaît tellement bien, qu'on récite un peu machinalement en oubliant que c'est la prière de Jésus d'abord. Eh bien, quand Jésus s'adresse à son glorifie, Jésus ouvre son cœur de fils d'une nouvelle manière à son Père. Alors il y aurait plein de choses à dire sur le contenu de la prière, sa structure, etc. Je voudrais juste en souligner une, c'est l'unité qui se révèle entre le Père et le Fils. Et l'unité que Jésus demande pour les croyants avec le cœur du Père. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Le cœur de la prière sacerdotale ou de la prière du Fils bien-aimé de Jean 17, c'est la prière pour l'unité. L'unité des cœurs, l'unité des personnes. C'est la grande prière qu'on utilise tout le temps dans l'œcuménisme. En disant « Jésus a prié pour l'unité ». Et quand on se pose la question « qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Église que l'Église n'a pas encore réalisé dans son programme, dans son programme marketing ?» La prière pour l'unité, Jésus a anti-division, a anticipé la diversité, il a prié pour l'unité. Nous pouvons toujours prier pour l'unité en nous, l'unité dans notre couple, l'unité dans notre famille, l'unité dans notre Église, aux Églises, etc., etc. La prière de Jésus dans le chapitre 17, c'est la prière pour l'unité. Au nom de l'unité entre le Père et le Fils. Donc vous voyez ce que je vous disais ce matin, ce que Jésus vit de plus intime avec son Père, cette filiation divine, il ne nous donne pas moins que ça dans la vie de la grâce. On n'est pas en dessous de Jésus dans la vie de la grâce. Tout ce que Jésus dans son humanité vit de manière plénière, en étant en chemin. Beaucoup plus et ce serait absolument passionnant, mais je vais continuer pour vous emmener un peu. Donc cette paternité, vous voyez, elle est quelque chose de concret. Elle est une personne. Elle est un lien d'amour. Elle est une présence. Tout ce que Jésus fait se nourrit de cette paternité que Dieu Père vit à son égard. Donc ça nous fait un Dieu qui est quelqu'un. Qui est présent, qui s'engage, qui vit avec son fils en tant que Verbe incarné, tout ce que Jésus a à vivre. Et donc, par participation, par incorporation dans le mystère de Jésus, nous sommes invités à vivre tout ça. Veut nous faire connaître le Père comme il le connaît, veut nous faire accueillir le Père comme il l'accueille. Le Père et moi, nous sommes un. Bien, cette unité, c'est aussi celle des mystiques, de l'inhabitation de la Trinité dans l'âme. Et de dire, le Dieu qui est au-dessus de tout peut venir dans la créature faire sa demeure. Le de toutes, c'est toujours la même, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, qui considère la Trinité prisonnière de son âme. Prisonnier de mon amour. Mais de l'Enfant Jésus, alors, et si vous lisez ça formellement, avec la théologie dogmatique, tout est hérétique chez Thérèse. Plusieurs fois cette conférence, les 10 hérésies de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si vous prenez des phrases totalement délirantes, et vous essayez de comprendre ce qu'elle dit. Ô Jésus de manuscrit B, si je voulais te dire mon amour, dire que je t'emprunte ton propre amour. Vous avez déjà pensé à emprunter l'Esprit Saint dans la Trinité, vous? Peut-être à la place de la Trinité, en disant à la Trinité, fais-moi une petite place, je viens. Et je me mets à la place de la Trinité pour dire à Jésus avec l'amour du Réveil. C'est naturel pour Thérèse. Elle se lève le matin en se brossant les dents, elle se dit, ô Jésus, je veux emprunter ton propre amour. Demandez ce soir à la veillée d'emprunter l'Esprit Saint. Mettez une fiche d'emprunt. Emprunter l'Esprit Saint à Troussure le 21 janvier 2017. Mais l'Esprit Saint, c'est comme ça dans toutes les bibliothèques. Il y a des trous de plus en plus grands. Les rayonnages se remplissent de fiches. Il n'y a plus de livres, mais il y a toutes les fiches. Ça sera ça la fin du monde, vous voyez, quand l'Esprit Saint aura été emprunté par tout le monde, que tout le monde aura mis une fiche. J'ai emprunté l'Esprit Saint aujourd'hui pour ma vie. Je passe à quelques remarques, quelques efforts pour vous faire contempler avec moi le mystère du Fils. En introduction, on pourrait dire quand on a parlé du Père, comme c'est le Fils qui nous le révèle, on a déjà tout dit. Et pourtant, cet amour entre le Père et le Fils, il a aussi un visage concret qui s'appelle Jésus et qui nous dit des choses que le Père ne nous dit pas. Et dans l'économie divine, dans la manière dont Dieu se donne, ce qui est tellement mystérieux, c'est que le Père, il reste toujours caché. Le Père ne s'est pas incarné. C'est le Fils qui s'est incarné et c'est l'Esprit Saint qui venait à l'Église. Mais le Père, il est toujours backstage, quoi. Un peu comme les parents, vous voyez, qui poussent les enfants dans la vie, qui sont toujours là pour ramasser les morceaux, quoi. Alors vas-y, lance-toi, fais tes expériences. Si t'as besoin, je serai toujours là, quoi. Le Père envoie le Fils et l'Esprit Saint au combat, disant « Faites ce que vous pouvez et je serai toujours là s'il y a besoin. » Le Père, on n'a pas un visage très concret du Père. Et dans l'Apocalypse, quand dans le chapitre 4, Saint Jean voit le trône sur lequel est assis Dieu et c'est le Dieu qui est assis sur le trône. Père, eh bien, la première vision que Jean a, c'est « Je vis quelqu'un, j'ai vu Dieu le Père. » Il dit « J'ai vu quelqu'un. » N'est-ce pas conquérir jusqu'au bout? Et c'est ça aussi toute la querelle iconoclaste dans l'Antiquité, de savoir est-ce qu'on peut l'éthique. Si le livre de l'Exode avait dit commandement d'étude, tu te feras pas sur une icône, est-ce qu'on ne va pas contre ce commandement de Dieu? Interpréter le commandement ou le comprendre dans son contexte, pour qu'on peut dire autre chose que ce que dit l'Écriture, sans nous, c'est Jésus. Alors je vous donne juste deux idées que je vous livre là brut et puis j'essaie de les développer rapidement un petit peu chacune. Il y aurait plein de manières infinies de regarder toute la vie de Jésus telle que Saint Jean nous la déploie, mais je ne peux pas faire ça. Donc je vous présente deux petites choses. La première, c'est les trois filiations qui sont présentées dans l'évangile de Jean. Jésus est présenté comme fils de Dieu, fils du Père et fils de l'homme. Et puis la deuxième chose, c'est les différents lieux où Jésus nous dit quelque chose de ce qu'il est. Les « je suis » de Jésus, les 7 ou 8, ça dépend comment on compte, prennent. Où Jésus nous révèle quelque chose de ce qu'il est. Et vous allez voir que presque tous les « je suis » de Jésus ont une connotation un peu particulière, qui est un peu comme ce que, ça fera la transition avec ce que Sœur Jean Thomas vous dira tout à l'heure, qui est très lié à la manière dont nous entrons en contact avec la parole de Dieu. Les manières dont Jésus nous dit « je suis la porte, je suis le bon pasteur », c'est pas statique. Ça nous demande toujours de nous positionner. Si Jésus dit « je suis le bon pasteur », comment je suis brebis? Si Jésus dit « je suis la porte », qu'est-ce que je fais de cette porte? Je me prends la porte. J'ouvre la porte ou je la ferme? Eh bien, je ne regarde pas Jésus de la même manière si je me prends la porte et Dieu surgit dans ma vie. Dieu existe, je l'ai rencontré, André Frossard.
je crois qu'il a écrit à la fin de sa vie.
L'homme existe, je l'ai rencontré. Ça, c'est Dieu qui parle, oui.
Bah, est-ce que Dieu surgit dans ma vie comme ça, de manière inattendue, ou Jésus qui est la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en fais de cette porte? Je passe le pas de la porte. Si vous avez vu le film The Truman Show, un film extraordinaire.
Reality Show avant l'heure, il vit dans une bulle, Truman, toute construite par un producteur du cinéma américain qui a mis des caméras partout et qui représente, enfin, qui est un Truman et qui montre tout ce que fait Truman le jour et la nuit toute sa vie. Et Truman va vouloir sortir de cette vie, et un des passages hyper émouvants à la fin du film, c'est qu'il arrive à sortir mais de ce monde virtuel dans lequel il vivait sans s'en rendre compte. Pour
Angélique, la symbolique qu'il y a derrière. Voilà, comment Jésus nous invite à entrer là-dedans? Donc les trois filiations, je les regarde très rapidement, fils de Dieu, fils du Père et fils de l'homme. Dieu, il y a plusieurs manières de l'interpréter, et on trouve des indications de cela dans l'Ancien Testament, mais qui sont jamais, vous voyez, ontologiques. Fils de Dieu, ça veut dire, c'est plutôt une connotation qu'on va dire morale. Celui qui se reconnaît dépendant de Dieu. Le Christ du Nouveau Testament qui se nomme Fils de Dieu, vous voyez, vous lisez des bouquins de Frédéric Lenoir, comment l'homme devint Dieu, etc., en essayant de vous reconstruire la théologie des premiers siècles en vous disant que nulle part dans la Bible il est dit que Jésus est Fils de Dieu. Eh bien si, il y en a plein, et notamment dans l'évangile de Saint Jean. Dans Jean 3, 13, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils. Dans Jean 10, 36, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dit, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis Fils de Dieu. Jésus se nomme Fils de Dieu, pas simplement d'une manière morale, comme une filiation spirituelle, et aussi comme une identité de nature, se dire fils de, et on le dit malheureusement en français dans une expression pas très glorieuse que je ne vous répéterai pas, comme un juron, et bien en fait c'est la caricature de la vraie filiation. Se dire fils de, c'est se reconnaître identique à celui dont on est fils. Donc quand Jésus dit fils de Dieu, et bien il le dit en vérité, il est vraiment fils de Dieu. Né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, disons-nous dans le credo. Donc, cette filiation divine que Jésus révèle, eh bien justement, toute seule, on pourrait comprendre que Jésus ne le dit pas si explicitement que cela. Qu'est-ce que veut dire fils de Dieu? C'est pour ça que Jésus emploie aussi deux autres expressions. Et donc, les trois expressions fils de Dieu, fils du Père et fils de l'homme sont liées. Jésus se dit aussi fils du Père. Il enseigne, on en a déjà lu un petit passage tout à l'heure, ce matin, dans le chapitre 3, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main, qui croit au Fils à la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. En 5,19, Jésus redit qu'il reçoit tout ce qu'il est et ce qu'il fait de son Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Combien c'est dérangeant que cette personne humaine qui s'appelle Jésus, cette apparente personne humaine, cette personne divine incarnée qui est Jésus, dise que ce qu'il fait, il le fait parce que Dieu le Père lui dit de le faire. Si nous disions dans notre vie que nous faisons des choses parce que Dieu nous dit de le faire, on nous dirait « mais tu te prends, t'es illuminé, tu crois pour qui tu te prends ?» Eh bien Jésus révèle que son action, ses paroles, jusqu'à sa mort, sont vécues en union d'amour parfaite avec son Père, qui est notre Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Donc il n'est pas simplement fils de Dieu, il est fils de Dieu comme Père. Il révèle un Père et il se révèle comme fils. Et le fait d'être fils, c'est-à-dire entièrement dépendant du Père, eh bien c'est ça que Jésus nous confie comme la vocation la plus profonde. Être chrétien, c'est pas simplement vivre une vie morale, essayer d'être un homme ou une femme, c'est tout ça, et c'est bien plus que ça. C'est aussi entrer dans cette proche tellement proche que nous le regardons comme un père, parce qu'il l'est vraiment, et qu'il est tellement grand aux yeux de Dieu qu'il nous adopte, qu'il nous prend par la grâce comme ses enfants. Il nous regarde comme ses enfants. Il reçoit tout du Père, et on pourrait dire aussi, ce fils, c'est un fils qui a accès au cœur du Père. vous disais tout à l'heure, dans le prologue, on voit ce Fils qui est dans le sein du Père et qui nous a révélé Dieu. Et on a un autre passage dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Vous voyez cette prière bizarre que Jésus nous invite à vivre. « Tout ce que vous demanderez, sous-entendu, au Père, en mon nom, je le ferai. » Père, c'est la prière du Fils qui s'adresse au Père et qui sait qu'il peut tout obtenir de lui. Donner ce qu'il y a de plus précieux, et je te demande ce qu'il y a de plus important et de plus précieux pour moi, pour que tu me le donnes. Je demanderai en mon nom au Père, je le ferai. Donc nous demandons au Père, qui est la source de tout, et celui par lequel le Père du ciel nous donne ce dont nous avons besoin, eh bien c'est le Fils. Et pourquoi ? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et l'efficacité de notre prière nous permet de comprendre que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. Nous devenons, si je vais pousser un tout petit peu plus loin, notre prière sert au Père à glorifier son Fils et au Fils à se laisser... Servons à quelque chose de la Trinité. Ça, c'est hérétique quand je dis ça. Parce que la Trinité n'a besoin de personne. Mais pour la Terre, Dieu a besoin de passer par notre prière pour que l'unité d'amour entre Dieu, qui est à la fois Père et qui est concrètement engagé dans l'histoire humaine, dans son Fils, soit rendue visible à nos yeux. Notre prière rend concret le lien du Père et du Fils pour la Terre. C'est subtil, c'est profond, et en même temps c'est extrêmement simple. C'est un cœur à cœur de personne à personne. Nous prions Jésus comme un ami, comme un frère. Jésus ouvre notre cœur pour le cœur du Père du ciel. Le Père du ciel répond à Jésus, et répond à Jésus en exaucant nos demandes. Donc il y a cette communion incroyable, vous voyez, que le Père et le Fils qui s'aiment, eh bien, ce cœur de leur amour qui est l'Esprit Saint, nous le vivons au Père. Ça ne fait que par amour, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Le Père nous le donne par le Fils. Et ça, c'est... On prie pour des choses concrètes, mais on ne prie pas assez pour que ce qu'il y a de plus précieux dans notre cœur s'ouvre à Dieu et reçoive l'amour de Dieu à l'infini. Et on ne prie pas assez, même s'il y a des soucis de santé, des soucis d'argent, pour que le plus important que ceux pour lesquels nous prions reçoivent, ça soit l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu Père pour son Fils. Qu'il soit aussi comblé d'amour que le Père est comblé d'amour dans l'amour de son Fils et que le Fils est comblé d'amour par l'amour de Dieu. Je vous donne déjà une petite clé pour demain. La Trinité, c'est choisir que le cœur de notre vie chrétienne et le cœur de notre prière, ça soit la mesure de la vie du chrétien. C'est ça qui fait que notre vie, elle est en croissance perpétuelle. Le fait que nous choisissions que tout ce que nous vivons, même les uns avec les autres, même en couple, même en communauté, ça, nous avons besoin les uns des autres, parce que votre amour me dit quelque chose de l'amour infini de Dieu que mon petit amour à moi ne s'est pas réalisé. J'ai besoin de votre manière d'aimer Dieu pour découvrir un peu plus ce que Dieu veut faire de mon cœur. Vous voyez, Jésus est fils de Dieu, mais ça reste encore mystérieux parce qu'il y a des connotations qui viennent de l'Ancien Testament et qui est une filiation qu'on va appeler morale. Cette manière dont Jésus révèle cette proximité par rapport à Dieu, c'est par rapport à Dieu comme un père, donc il est le fils du Père et il est en même temps le fils de l'homme, pour bien nous montrer qu'il partage toute notre humanité. Donc, vous voyez, la filiation dans le Christ, en toute sa personne, le Christ, il n'est que fils. Il est fils du Père, fils de Dieu. On ne peut pas regarder la personne de Jésus autrement que comme celui qui reçoit tout de Dieu. Eh bien ça, ça spécifie notre vie chrétienne, ça spécifie notre prière. Je ne suis pas autre chose pour Dieu que son fils, que sa fille. Regardez, n'a pas l'image de la paternité et de la maternité que vous êtes, et pourtant vous êtes des bons parents. Donnez tout à vos enfants. Vous donneriez votre chemise et votre vie pour vos enfants, et vous le faites aussi concrètement. Un père, je ne sais jamais si c'est un serpent ou un scorpion quand il lui demande du pain, si même vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Malgré la limite de notre amour humain, combien plus Dieu donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent ? Voilà la paternité de Dieu, c'est une paternité qui ne s'arrête pas. je ne sais jamais dans quelle encyclique, peut-être Paul II, où il commente le fils prodigue. Je ne sais pas si c'est Vives Sinistris. Jean-Paul II essaye de regarder ce que fait le père de l'enfant prodigue. Si, quand l'enfant prodigue revient, le père le voit, c'est qu'il l'a toujours attendu. C'est qu'il a toujours gardé, c'est qu'il a toujours espéré qu'il revienne. Et Jean-Paul II va allégoriquement interpréter ça en disant, mais en fait, la paternité, c'est quoi? C'est regarder dans le cœur de son fils ce qui fait sa dignité. Et que le rôle du père, et donc de la mère, analogiquement, c'est de donner sa pleine dignité à son enfant. Voilà ce que c'est que la paternité de Dieu. Essayer de regarder en nous ce qui nous donne notre pleine dignité d'enfant de Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas avant d'avoir réalisé ça. C'est pour ça que ça prend pas mal. Ce que Dieu veut, c'est tout simple. Cette filiation qu'il donne à son fils, eh bien, il veut nous la donner aussi. Notre manière de prier, tout simplement, Jésus, fais de moi un fils. Ou mon père, apprends-moi à être un fils ou une fille. L'homme, juste un petit mot là-dessus, l'origine de l'expression, on la trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. L'homme, c'est pas simplement l'humanité de Jésus, il y a aussi une dimension messianique. Le fils de l'homme, c'est celui qu'Israël attend comme le sauveur. Donc quand Jésus se dit fils de l'homme, il se dit le sauveur. Celui qui vient accomplir le désir de notre cœur. Ça, c'est hyper beau aussi pour notre vie de prière et notre lien avec Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur comme désir inassouvi que Dieu veut combler? Aujourd'hui, où j'ai ce qu'il me faut pour vivre, où mes enfants sont casés, où je sais ce que je sais faire dans la vie et que je fais bien, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut encore me donner? Ou est-ce que Dieu est encore le Messie qui vient accomplir quelque chose en moi que je n'ai pas encore accompli dans mon cœur? Et plus ma vie avance, elles sont accomplies, et plus ce qui reste encore à accomplir, c'est des choses intérieures. Entrer dans une filiation divine, ça nous rend contemplatifs par nature. On est obligé d'aller chercher les intentions du cœur de Dieu sur notre cœur. On ne peut pas se contenter de ce qu'on fait en se disant « ce que je fais, je le fais bien, et donc Dieu est content ». Comment je le fais? Avec quel cœur je le fais? Avec quel cœur d'enfant je le fais? Est-ce que laisse transparaître Dieu à travers tout ce que je fais? Donc, je reprends juste cette petite expression pour vous montrer la complexité d'analyse, mais la simplicité du côté de la vie que Jésus nous donne. Quand, dans le discours sur le pain de vie, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang. Un juif, il entend ça. Si vous ne mangez la chair du Messie, et si vous ne buvez son sang, et celui qu'Israël attend, il faut le manger. Donc ça demande d'entrer dans une intimité violente, qui est choquante. Jésus ne dit pas, il faut que vous l'aimiez, le Fils de l'homme. Il faut que vous mangiez sa chair et buviez son sang. Vous voyez, il n'y a plus de distance entre la créature et le Créateur. C'est ça que les mystiques ont essayé de dire de manière maladroite, c'est que nous ne sommes plus à l'extérieur de Dieu. Nous sommes quelque chose de Dieu. Filles de Dieu qui faisons partie du mystère de Dieu. Le deuxième petit point sur le Fils, c'est les « je suis ». Alors là, je ne vais pas vous les commenter parce que je devrais déjà arrêter. Il faut que je dise encore un petit mot sur l'Esprit Saint. Je vous donne juste les références. On pourrait faire une petite typologie, je ne la fais pas là, mais je vais juste vous donner une remarque de conclusion en disant les images où Jésus nous invite, il y a dans ces « je suis » des images où Jésus nous invite à comprendre un symbole pour entrer dans la réalité, et puis il y a deux lieux où Jésus nous dit directement ce qu'il est. Alors les symboles, c'est le pain de vie. Il y en a plusieurs fois, Jean 6, 35 par exemple, c'est un des lieux autour desquels les autres se nouent. Jésus qui nous dit « Je suis la porte des brebis », c'est Jean 17. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé », etc. Le bon pasteur, Jésus 10, 11, « Je suis le bon pasteur ». Le pasteur donne sa vie pour ses brebis. Tiens, vous voyez, c'est pas simplement une comparaison. Jésus nous dit quelque chose de ce qu'il est, de ce qu'il fait pour nous. La vigne véritable, Jean 15, 1. « Je suis la vigne véritable et mon père est le vigneron ». Sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève, etc. Et puis, la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Où Jésus dit, à mon sens, plus ce qu'il est. La résurrection. Je suis la résurrection. Et on est un peu dépaysé devant cette phrase de Jésus. Il ne dit pas, je suis le ressuscité. Je ne suis pas celui qui donne, qui vous fait ressusciter. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? Il y a un acte de foi à poser. Est-ce que Jésus est la résurrection pour moi ? Dans toutes les situations de mort, de mon cœur, de ma vie, de ma santé, de mes finances, de mes projets, je suis la résurrection. Et ça, c'est, on s'arrête un peu de manière contemplative. Et puis l'autre lieu, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le lieu par excellence, le « je suis », Jean 8, 24, « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Tous ces « je suis », ils se greffent sur Exode 3, selon Thomas de savoir ça par cœur, 3, 14. Dieu dans le buisson ardent qui parle à Moïse et qui dit « Je suis celui qui est, celui qui est pleinement en lui-même. » Moïse comme le Dieu qui veut conduire Israël à travers cette présence absolue. Eh bien la manière dont Jean regarde qui est Jésus, c'est à travers ces différentes facettes d'une présence qui est une présence absolue. Et qui en même temps nous demande un engagement. Je suis la porte, je suis le bon pasteur. Toutes les images, elles nous demandent de poser un acte pour que cette réalité proposée devienne vivante. Dieu ne nous impose pas un chemin. Il se propose comme le chemin et il nous demande si nous voulons le parcourir avec lui. Pour conclure cette petite contemplation de la personne du Fils par cette phrase tellement belle, aussi tellement déroutante pour... l'Ancien Testament, et même pour les philosophes, et pour le monde païen et le monde juif, cette manière dont le Dieu incarné, qui se fait fils, nous appelle ses amis. Nul n'a de plus grand amour, Jean 15, 13 et suivant, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les autres. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Dieu nous propose une amitié avec lui. On est la seule religion où Dieu propose ça. C'est difficile à vivre. Dans l'islam, Dieu ne propose pas à l'homme d'être son ami. Vous savez, dans la mosquée Sainte-Sophie, à Istanbul, vous voyez que Dieu n'est pas votre ami.
En plus, c'était avant d'être construite comme une
basilique chrétienne, mais elle a été aussi beaucoup transformée. Eh bien, vous avez rien qui fait le lien, comme dans les églises gothiques en Europe, entre le niveau de la terre, qui est le niveau du sol, et puis le niveau du ciel. Vous n'avez pas des saints qui vous tirent par la peau du cou pour vous faire découvrir la grandeur de Dieu. Vous êtes petit et Dieu est immense. Dieu ne propose pas à un juif d'être son ami. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui fait alliance avec son peuple, mais comme peuple, mais qui ne s'engage pas de la même manière aussi concrètement par rapport à chacun d'entre nous. Je me souviens d'un groupe de prière charismatique à Lyon où j'avais été il y a très longtemps. J'étais à côté d'un professeur d'islamologie à l'université catholique de Lyon, dans ce groupe charismatique, qui était musulman, et qui me disait pendant la soirée charismatique, « Ah, vous avez quelque chose que je sais, me disait-il pendant cette soirée charismatique, que Dieu me conduit, mais je ne sais pas comment. Et vous, chrétiens, vous avez trouvé des chemins pour expliciter ça. » Je ne sais pas si ça t'en rendrait jaloux ou admiratif, je ne l'avais pas dit pendant cette soirée, mais voilà. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait. Vous fait quoi d'être l'ami de Jésus ? Pas simplement, vous voyez, imaginativement, mais que le Dieu trois fois saint vous choisisse comme son ami sur Facebook. Elle a cliqué sur votre profil Facebook en disant « Je veux que lui et elle soient mon ami. » Ça nous déloge un peu de ce Dieu si loin et si transcendant qui reste bien dans son ciel. Je fais un petit dessin de Bigot qui prie au pied de son lit. Seigneur Jésus, prends bien soin de toi parce que si t'arrivais malheur, on est tous foutus. J'aime beaucoup cette prière. De temps en temps, je la prie. me souviens encore du dessin. Fais bien attention à toi, parce que si t'avais malheur, on est tous foutus. Je trouve ça génial. Oui.
Voilà, c'est... On est la créature, et pourtant, on essaye de dire à Dieu, prends soin de toi. Il y a aussi, vous voyez, on prend soin de lui, comme un ami prend soin de son ami. Les cisterciens, au Moyen-Âge, ont développé cette amitié avec Jésus. Hélène de Rivaux a écrit un petit traité. L'amitié divine. Dieu se fait l'ami de l'homme. Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'homme ?
Il faudrait dire un petit mot sur l'Esprit Saint, mais j'y reviendrai demain du côté de la créature que nous sommes, donc c'est pas très gênant. Quelle chose, et après je laisse la parole à Sœur Jean-Thomas, et je l'opérerai ça demain. Une manière de contempler l'Esprit Saint dans l'Évangile de Saint Jean, parce que ça apparaît à différents endroits où l'Esprit Saint arrive, c'est que l'Esprit Saint, il est présent de toujours à toujours. Jean-Baptiste rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre tel une colombe venant du ciel et de... »
On emploiera le mot de paraclet que j'essaie de vous expliciter un petit peu demain. L'Esprit Saint, nommé par Saint Jean, il a un nom spécial qui n'existe que dans l'Évangile de Jean et dans la première épître de Jean, le paraclet, le consolateur, que le Père enverra afin qu'il soit toujours avec vous. Vous savez quand j'entends ça. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui nous est promis pour être toujours avec nous. Il n'y a jamais aucun moment où l'amour de Dieu ne pourra nous lâcher. Il reste enceint de nous pour l'éternité. Donc, tout ce qu'il va y avoir de grand, de beau, de noble, de vif, d'intelligent, d'intime, de lumineux, de glorieux, de grandiose dans notre vie, eh bien c'est l'Esprit Saint qui le fait avec nous et qui lui donne toute sa taille. Tout ce que l'amour... Et par un amour conquérant, c'est l'Esprit. Il faudrait, j'espère que ça vous donnera envie de relire l'Évangile de Saint Jean. Je l'ai fait pour vous, donc vous pouvez le faire en deux heures. De lire l'Évangile de Jean, en disant qu'est-ce qu'une divine avec nous.